7h20 à Paris, c'est désormais chose faite. Depuis 2 heures, les États-Unis imposent aux produits du monde entier une surtaxe de 10% à l'importation. Le premier volet des annonces de Donald Trump, son augmentation généralisée des droits de douane qui continuera cette semaine avec l'entrée en vigueur des tarifs encore plus sévères, décidés notamment contre la Chine, plus 34%, contre le Japon, plus 24%, ou encore contre l'Union européenne, plus 20%. On a parlé de l'onde de choc qui a traversé le globe depuis cette décision, des réactions politiques, des promesses de riposte. Mais comment réagissent les entreprises, les acteurs économiques, évidemment parmi les premiers concernés, et ceux qui les représentent auprès des dirigeants? On en parle ce matin avec notre invité. Bonjour Mathieu Collet.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes président et fondateur d'Euros Agency Group, membre de l'Association française des conseils en lobbying. Alors les marchés du monde entier ont poursuivi leur dégringolade hier. Tout le monde s'attendait à l'annonce de Donald Trump, mais pas forcément à ce qu'il soit généralisé et aussi élevé, ces nouveaux droits de douane. Avez-vous vous-même été surpris par l'ampleur des mesures annoncées ?
Alors oui, c'est un choc considérable pour l'ensemble des entreprises des secteurs économiques français, européens, mondiaux. On s'attendait à ce que Donald Trump utilise les droits de douane dans son arsenal politique, mais à un tel niveau, c'était pas attendu. Donc il y a une sidération générale de l'ensemble des secteurs d'entreprises qui se mobilisent aujourd'hui.
Ouais, parmi les entreprises, les acteurs économiques que vous représentez, justement, on est déjà dans une phase de gestion de crise ou alors on observe, on reste prudent, c'est l'action ou c'est la sidération, comme vous le disiez ?
C'est la sidération, mais bon, les chefs d'entreprise sont des gens rationnels qui vont défendre leurs intérêts au mieux et donc qui se mobilisent déjà. Il y avait déjà des mobilisations avant l'annonce concrète du 2 avril, mais là, on est vraiment tout le monde est en ordre de bataille, que ce soit à Paris ou à Bruxelles. Donc, au sein de chaque entreprise, au sein de ses propres fédérations nationales, et chaque fédération nationale, ainsi que les plus grands groupes à Bruxelles, dans les confédérations européennes qui vont représenter les secteurs économiques de manière coalisée sur l'ensemble des pays à Bruxelles.
Et c'est l'une de vos missions de représenter, de défendre auprès de l'Union européenne les intérêts d'entreprises, d'acteurs qui vont être à la fois touché par les droits de douane américains et par la réponse européenne. Vous avez déjà des exemples concrets de ce qu'ils font remonter, de ce qu'ils demandent à Bruxelles aujourd'hui ?
Oui, il y en a beaucoup. C'est le cas de quasiment l'entièreté des secteurs. Ça peut être le secteur pour la France qui est exposé sur des secteurs particuliers comme l'aéronautique, comme les cosmétiques, comme le papier, les emballages, l'automobile aussi, ou les vins et spiritueux. Il y a chaque association se mobilise. Je peux vous donner quelques exemples. Il y a les spiritueux notamment, hein, avec des sociétés comme Pernod Ricard, Campari ou d'autres, ou encore les producteurs cognac qui sont représentés au sein d'une association qui s'appelle Spirit Europe. Cette association a demandé à Bruxelles d'éviter d'instrumentaliser leur secteur dans la réponse européenne, puisque comme vous le savez, le cognac est consommé majoritairement aux États-Unis et l'Union européenne, dans ses réponses ciblées, peut taxer des produits comme le bourbon. Donc le risque, c'est de rentrer dans une escalade et Donald Trump avait déjà menacé de mettre une taxe de 200% sur les boissons alcoolisées européennes. Voilà. Donc ça, c'est un exemple, mais tous les secteurs sont mobilisés. Oui. Et chacun a ses problématiques propres.
Oui, ça veut dire que certains secteurs, aujourd'hui, plaident auprès de Bruxelles pour ne pas être intégrés dans les mesures de rétorsion, pour ne pas aggraver leurs difficultés. Est-ce que ces demandes sont susceptibles d'être entendues ? Est-ce que dans ce genre de situation éminemment politique, hein, au-delà de l'économie, les entreprises, les lobbyistes sont associés à l'élaboration d'une stratégie de riposte ?
Oui, complètement. Tout le monde est associé. Il faut savoir qu'à Paris ou à Bruxelles, vous avez du lobbying de sociétés du monde entier, hein, que ce soit françaises, européennes ou américaines ou chinoises. Et là, c'est là où on voit le rôle du lobbying et de la représentation d'intérêts dans la démocratie, c'est que ça permet aux décideurs publics de pouvoir être vraiment en prise avec les réalités économiques et de pouvoir arbitrer au mieux pour l'intérêt général. Donc, de toute façon, il s'agit pas forcément d'un rapport de force là entre les secteurs économiques européens et les décideurs européens. Il s'agit vraiment de travailler ensemble à trouver les meilleures réponses et de protéger au mieux l'ensemble des secteurs européens.
On voit aussi qu'en France, les entreprises sont appelées au patriotisme. Emmanuel Macron leur a demandé de suspendre les nouveaux investissements aux États-Unis. Certains patrons semblent bien embêtés. Je pense à Rodolphe Saadé de CMA-CGM ou à Bernard Arnault de LVMH, par exemple, qui avait déjà commencé à nouer des liens avec l'administration Trump. Ce patriotisme qu'on demande aujourd'hui aux entreprises, il peut aussi faire l'objet de négociations entre les acteurs privés et les pouvoirs publics?
Non, parce que chaque entreprise est libre d'investir comme elle le souhaite ou comme elle ne le souhaite pas. Donc c'est plutôt une ligne que va fixer le président de la République et plutôt une recommandation forte. Voilà, le président de la République représente l'intérêt général et va exprimer ce qu'il pense être l'intérêt général. Mais il faut savoir que pour certaines entreprises qui ont des usines aux États-Unis et qui exportent depuis les États-Unis, tout en étant très présentes en Europe, je pense à une société comme BMW qui est le premier exportateur automobile américain, mais qui est aussi un des plus gros exportateurs automobiles en Europe, on ne peut pas demander à des sociétés comme ça d'arrêter d'investir ou de se retirer. Ça n'aurait pas de sens puisque c'est un enjeu systémique pour certaines de ces entreprises.
Au-delà de ça, on voit que l'Europe se laisse donc un mois pour répondre. Certains disent que c'est un délai un peu trop long, qu'elle risque de prendre un train de retard. Est-ce que l'Union européenne, dans son mode de fonctionnement, dans son mode de décision, reste le cadre adéquat pour répondre à Trump et au rythme qu'il impose?
Oui, c'est le meilleur cadre possible parce que c'est un marché de 450 millions de consommateurs, donc qui est un des plus grands marchés au monde, c'est ce qui donne à la France et aux l'ensemble des pays européens de la puissance au niveau international et c'est vraiment le meilleur niveau pour pouvoir répondre. Si on prend un mois, c'est que l'Union européenne est attachée à répondre de la manière la plus intelligente possible et à pouvoir influencer Donald Trump le mieux possible. Par exemple, en surtaxant, en rétorsion des produits qui sont fabriqués dans des usines, dans des circonscriptions qui vont avoir un impact sur les républicains Donald Trump. Par exemple, c'est ce que l'Union européenne sait très bien faire. Donc, que ça prenne un mois pour coaliser tout le monde, toutes les représentants d'intérêts européens et qu'on fasse les choses le mieux possible, oui, c'est normal. Et c'est un délai qui n'est pas choquant.
On dit beaucoup depuis mercredi que Donald Trump a mis fin avec ses droits de douane, au système de libre-échange, à la mondialisation telle qu'on les connaît depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Comment ça peut affecter concrètement le secteur du lobbying et votre façon de travailler? Dans un monde économique, politique plus brutal, plus imprévisible, la façon de négocier va aussi changer?
Oui, absolument. Disons que c'est un coup de frein à la mondialisation américaine, en tout cas. Mais l'Amérique était le cœur de la mondialisation, mais c'est un coup de frein de cet ordre-là. Ça n'a pas. Ça va. Notre rôle, c'est d'offrir de la stabilité d'offrir de la stabilité aux dirigeants dans un monde instable, de plus en plus instable.
Donc, mais ça peut affecter, par exemple, les liens entre les lobbyistes américains et européens. Il peut y avoir confrontation ou à l'inverse une coopération, notamment avec des groupes américains opposés au président.
C'est possible, mais je peux vous donner un exemple très, très simple. C'est le secteur du numérique dans lequel on est très présent. Vous avez de grands acteurs américains qui sont dans le numérique, dans le cloud, dans tous les outils que vous utilisez, Microsoft, Google, qui sont extrêmement présents. Eux vont défendre des positions, mais est-ce que répondre en taxant les suites Microsoft ou Google qui vont avoir un impact sur le consommateur et sur les entreprises européennes qui sont dépendantes de ces outils, est-ce que ça a un sens? Probablement pas, par exemple.
Merci beaucoup Mathieu Collet, président et fondateur d'Euros Agency Group, membre de l'Association française des conseils en lobbying. Très bonne journée.